Un Dieu unique en trois personnes, Dieu un et trine. Cet élément fondamental de la foi chrétienne, qui nous différencie à la fois du judaïsme et d'autres religions, eh bien, cette expression, la Trinité, comme je l'ai dit, ne figure pas dans le Nouveau Testament, mais les trois personnes divines y sont clairement nommées et sont associées dans des passages très connus, et tellement connus d'ailleurs que nous ne pensons même plus qu'ils sont bibliques, qu'ils sont des témoignages de la première époque apostolique. Par exemple, la bénédiction de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous, soit avec vous tous. » C'est ce que l'on reprend dans la formule d'ouverture de la messe, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Mais le fait que cette formule ait été répétée, entendue et banalisée, nous fait souvent oublier qu'elle est absolument une formule qui a 20 siècles et qui est très exactement le témoignage de ce qui a été vécu et entendu par les apôtres. On est donc là au cœur de la révélation. Ou bien, la grande mission de l'Évangile, Matthieu 28, 19, « Allez donc, et des nations faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Là, on a donc le fondement de la doctrine trinitaire, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu Père, un Dieu Fils et un Saint-Esprit. Cependant, le concept, c'est-à-dire la formulation intellectuelle de l'idée d'un Dieu en trois personnes, ne se formule explicitement qu'à la fin du IVe siècle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a fallu attendre que le christianisme devienne suffisamment étendu, se soit confronté aux différentes philosophies, pour voir comment on pouvait exprimer ce qui était une réalité de foi, avec des termes qui sont les termes de la raison. La première révélation de la Trinité, elle est implicite, elle est privée, et il y a une seule personne qui l'entend, c'est l'Annonciation. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. Mais ça, il n'y a que Marie qui l'a entendu. Mais enfin, Marie est un personnage évangélique, et ce que racontent les évangélistes, ils le tiennent effectivement de Marie, de Jésus, de Joseph. On est là devant vraiment le début absolu de la révélation chrétienne. La deuxième révélation de la Trinité, implicite mais publique celle-là, a lieu au-dessus du fleuve Jourdain lors du baptême du Christ. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix se fit entendre qui venait du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Luc 2, 22. Et elle eut Jean-Baptiste, le précurseur, le dernier des prophètes, comme principal témoin, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Cette révélation de la divinité du Fils, elle est aussi confirmée au sommet du mont Hermon, au moment de la transfiguration, pour le compte des trois disciples déjà présents. Au Jourdain, à savoir Pierre, Jacques et Jean. Et par ailleurs, le Nouveau Testament est rempli de formules qui affirment ou supposent la parfaite divinité du Fils, d'une part, et qui, d'autre part, associe pleinement l'Esprit à la vie, à l'intimité et à l'action du Père et du Fils. C'est-à-dire que, en fait, l'Esprit est la relation qu'il y a le dialogue, en quelque sorte, on pourrait presque dire, entre le Père et le Fils, sauf que un dialogue, c'est une relation, mais quand on arrête de se parler, il n'y a plus de relation. Or là, on a ce qu'on appelle une relation subsistante, c'est-à-dire que cet esprit existe, il n'est pas produit par le Père et l'Esprit, par le Père et le Fils, mais il est la relation qui unit le Père au Fils. Cette doxologie trinitaire a fait dire à de nombreux théologiens que la doctrine trinitaire est la juste compréhension de ce qui est implicite dans la Bible, c'est-à-dire ce qui n'est pas expliqué, ce qui n'est pas déployé, c'est-à-dire la vie même, la réalité même de Dieu, que je ne peux pas exprimer dans le langage des hommes, sinon par analogie, en quelque sorte, sinon par comparaison, parce que, n'étant qu'un homme, je ne peux pas, du moins dans l'état actuel des choses, ça sera peut-être différent au moment de la résurrection, mais je ne peux pas, dans l'état actuel des choses, connaître Dieu tel qu'il est, je dirais, dans son intérieur, dans son être lui-même. L'unité du Père et du Fils est soulignée dans plusieurs passages, et notamment dans l'Évangile selon saint Jean, où notamment on a au premier chapitre, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Et puis, il y a aussi Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un », et il y a toute la grande prière sacerdotale du Christ à la fin de l'Évangile de Jean, « Père, qu'il soit un comme nous sommes un, toi et moi en toi », où là c'est absolument manifeste, et en plus c'est un texte d'une beauté assez fabuleuse, mais les protestants, Jean Calvin notamment, déclarent que les docteurs anciens ont grandement abusé de ce passage pour prouver que Jésus-Christ est d'une même essence que son Père, car notre Seigneur Jésus ne dispute point ici de l'unité de la substance, mais de l'accord du consentement qu'il a avec son Père. Donc c'est pour vous, tout cela juste pour vous dire, et vous montrer clairement avec un exemple, que arrivé à ce stade-là, la théologie devient une affaire de spécialistes. Et quand je disais au début de cette émission que même si le fond de la doctrine reste la même, les formulations dépendent largement des cultures, des compréhensions personnelles et aussi des intentions de chacun. L'apôtre Paul, lui, dans ses épîtres, dit que Jésus est Seigneur, Kyrios. Ce qu'on retrouve dans Kyrie eleison. Il est le Kyrios, le Seigneur, qui, dans la Bible dite la Septante, la version grecque puis latine, est le mot qui désigne Dieu. Et Paul utilise souvent des formules trinitaires, comme dans la deuxième épître aux Corinthiens, qui associe les trois personnes divines. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous, je l'ai déjà cité. Et cette doctrine va donc ensuite être exposée, bien évidemment, par les pères de l'Église, Grégoire de Nazianze. Je vous donne une seule divinité et puissance, existant une dans les trois et contenant les trois d'une manière distincte. La Trinité, en fait, et on pourrait dire cela en pré-conclusion, et le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, reconnus comme distincts dans l'unité d'une seule nature, mystère qui n'est connu que par révélation, et qui, même révélé, ne peut pas être pénétré, ne peut pas être compris par l'intelligence humaine qui est une intelligence créée. Il faudrait en effet, pour les concilier entre elles, comprendre comment se réalise en Dieu la notion de Père, la notion de Fils, la notion d'Esprit, celle de relation, de verbe, d'amour, de personne et même d'être. Et nous ne pouvons pas savoir ce que représente en Dieu la notion de Père, parce que la seule représentation de la notion de Père que nous avons, c'est la paternité humaine, et qui est complètement imparfaite par rapport à la paternité divine. Et on pourrait dire de même de tous les mots que nous venons d'employer. Je ne peux pas comprendre complètement la filiation divine parce que je sais ce qu'est la filiation humaine. Ou alors je porte le flanc à la critique fondamentale de Feuerbach et de toute une critique du 19e en disant que, en fait, Dieu, ce que les chrétiens appellent Dieu, n'est que la somme des qualités poussées à leur extrême de tout ce qui existe déjà dans la nature. Je sais ce que c'est la bonté humaine, donc Dieu est suprêmement bon. Je sais ce que c'est la force, donc Dieu est suprêmement fort. Mais Dieu n'est pas un surhomme, il est le tout autre dans lequel se réalisent des réalités comme l'amour, la paternité, la filiation, l'esprit, la relation, la personne, que nous ne connaissons que par les réalités créées que nous appelons de ces noms, et qui sont des analogies finies de ce qui est réalisé à l'infini en Dieu. Pour terminer, et pour sortir un peu de cet effort que je vous demande à tous et qui m'est demandé aussi à moi, parce que ça n'est pas toujours évident de parler de ces choses aussi rapidement, je voudrais terminer sur une note plus spirituelle, si je puis me permettre. Il y a une poétesse du XXe siècle, Catherine Pozzi, qui a écrit peu de poèmes, mais un très beau, que je vais à la fois vous lire, parce qu'il nous aide à comprendre quelque chose de la Trinité avec des mots du XXe siècle. Très haut amour, s'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais, en quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais. Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour, en quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire, ô mon séjour. Par l'univers en mille corps brisés, de mille instants non rassemblés encore, de cendres aux cieux, jusqu'au néant vanné, vous referez pour une étrange année un seul trésor, quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini infiniment, quand je serai rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi, vous referez mon nom et mon image de mille corps emportés par le jour, vive unité, sans nom et sans visage, cœur de l'esprit, ô centre du mirage, très haut amour. Et quand nous célébrons dans la lumière pascale la fête de la Trinité, qui d'ailleurs est très voisine dans le temps liturgique de la fête du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, en fait, nous célébrons des choses qui sont étranges. Catherine Pozzi le qualifie de mirage, étrange parce qu'elle demande à notre intelligence d'accepter ce qui échappe aux moyens de la connaissance humaine. J'entends la connaissance habituelle d'être humain vivant dans un espace et dans un temps donné, et où les notions de temps et l'espace sont de l'ordre du postulat, c'est-à-dire de choses qu'on accepte sans qu'elles soient démontrées. Nous ne pouvons pas penser hors de l'espace-temps. Et ce que nous savons, ce que nous sommes, et ce que nous savons de ce que nous sommes, est conditionné par notre condition d'être spatio-temporel. Nous ne pouvons échapper à notre histoire, à notre culture. Et même si parfois nous pouvons nous en libérer, elles n'en sont pas moins présentes, en nous inscrivant dans le temps qui passe et les cycles du temps qui passe. Naissance, enfance, adolescence, jeunesse, maturité, vieillesse s'entremêlent et se nourrissent, sont occultés par l'oubli ou conservés partiellement par une mémoire qui devient défaillante. Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour, en quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire, ô mon séjour. Et là, on nous projette dans la Trinité, alors que nous ne savons pas nous-mêmes toujours construire notre unité. Construire son unité de vie pour un être humain, c'est quand même compliqué. On nous projette dans l'idée d'un Dieu unique en trois personnes, alors que nous avons du mal à distinguer la personne et l'individu. L'un est le multiple, l'universel est le particulier, et pour cela il nous faut des cours de philo, il nous faut des explications, des définitions. Nous avons pris culturellement l'habitude de distinguer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais distinguer ne veut pas dire séparer, mais au contraire mieux comprendre le type d'union. Si je parle d'un amoureux, il est clair que c'est un être humain, mais différenciable et unique parce que distinct de l'être qu'il aime, et pourtant incompréhensible sans tenir compte de l'aimer. L'analogie est pauvre, mais nos limites ne nous permettent pas d'aller plus loin. Quand je dis « un tel est amoureux », je sais qui c'est, un tel, mais quand je le qualifie d'amoureux, ça veut dire que je ne peux le comprendre qu'en faisant intervenir la personne qu'il aime, dans l'image que j'ai de lui. Un enfant est une unique création, née de l'amour de deux êtres qui lui préexistent, mais qu'il ne peut connaître. Qu'il ne peut connaître, même après être né et devenu adulte, parce qu'il y a tout un passé de ses parents qu'il ne connaît que très partiellement, et que lui-même ne connaît pas. Ne connaît pas le moment de son origine, le moment de sa conception, puisque sa mémoire, remonte au mieux à quelques années après sa naissance. Nous n'avons aucun souvenir conscient de ces 9 mois que nous avons passés dans le corps de nos mères. Et pourtant nous existions, et pourtant elles nous ont parlé, et pourtant elles nous ont aimés, et pourtant elles nous ont bénis, et nous avons une mémoire amputée de nous-mêmes. Comment voudrions-nous avoir la mémoire de Dieu ? Il nous faut essayer de penser à un mouvement amoureux préexistant à la création, et dont l'espace-temps est le lieu d'une révélation à nos yeux partiels, mais cependant total. Qui me voit, voit le Père. Et en ce sens, l'histoire est le lieu d'un Dieu qui se révèle, au sens où le lieu n'existe pas sans la présence de celui qui le qualifie ainsi par sa présence. Et ça, nous pouvons le comprendre. Quand je dis « je suis ici », je ne peux appeler cet endroit ici que parce que j'y suis. Quand je n'y suis pas, l'endroit ne s'appelle pas lui-même ici. Il ne dit pas « coucou, c'est ici quand je passe ». Il faut donc que l'histoire est le lieu d'un Dieu qui se révèle au sens où le lieu n'existe pas sans la présence de celui qui le qualifie ainsi. Par sa présence créatrice, sa présence conservatrice et sa présence qui sera renouvelante au 8e jour de création. Quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini, infiniment, quand je serai rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi, vous referez mon nom et mon image de 1000 corps emportés par le jour. Vive unité, sans nom et sans visage, cœur de l'esprit, au centre du mirage, très haut amour. Je ne veux pas quitter le studio sans remercier du fond du cœur tous ceux qui ont eu la patience de me suivre dans ces explications. Je le crains un peu complexe et parfois maladroite. Et je vous donne rendez-vous, si vous n'êtes pas découragé, pour la prochaine série, ce qui sera l'avant-dernière. La dernière sera consacrée à la Vierge Marie, mais les prochaines émissions seront consacrées au mystère de l'Église.